VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Au Burundi, une grenade a explosé ce vendredi à Bujumbura, toujours en proie à la contestation populaire contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, la présidentielle du 26 juin. Selon Edouard Ruima, un correspondant de la VOA sur place, l'explosion a eu lieu à l'extérieur de la Kenya Commercial Bank. Plusieurs personnes auraient été blessées, transportées à l'hôpital, alors que trois voitures ont été brûlées. Les manifestations ont donc repris ce vendredi, toujours sous les tirs de la police et après une nuit ponctuée de nombreuses rafales d'armes automatiques. Michel Joseph.
Plusieurs quartiers de la capitale burundaise ébranlés par des tirs nourris d'armes automatiques jusque tard dans la soirée d'hier. D'après des témoignages recueillis par l'AFP à Moussaga, Chibitoke, Bouiza, la police a tenté de disperser des manifestants qui s'apprêtaient à organiser leur rassemblement. Un véhicule privé a été incendié pendant la nuit à Bouiza. Ce vendredi matin, la police était de nouveau déployée dans ces mêmes quartiers et ratissait les ruelles. Des militaires participaient aux opérations et faisaient également des tirs de sommation. Plus d'une trentaine de personnes ont été tuées depuis le début des manifestations. Les chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est doivent se retrouver ce dimanche à Dar es Salaam pour tenter de sortir le Burundi de la crise.
4 soldats tchadiens et 33 islamistes ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram sur une île du lac Tchad mercredi. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi l'armée tchadienne. Nathalie Barge.
De violents combats ont eu lieu entre Boko Haram et les forces armées du Tchad mercredi à Choua, une île tchadienne du lac Tchad. Selon le porte-parole de l'armée, Azem Bermandoa Aguna, précisant que 33 djihadistes ont été abattus. Du côté de l'armée tchadienne, 4 soldats sont morts et 4 blessés, d'après le colonel, qui ajoute que depuis jeudi, l'aviation mène des raids aériens sur les positions des extrémistes sur le lac. Depuis 5 mois, quelques 5000 soldats tchadiens participent à une opération régionale contre le groupe islamiste. De violents combats ont eu lieu depuis janvier dans le nord-est du Nigeria et également sur les territoires nigériens et tchadiens. Les troupes du Tchad interviennent aussi dans le nord du Cameroun, où les djihadistes opèrent depuis au moins 2 ans. N'Djamena a enregistré de nombreuses pertes dans le cadre de cette opération. 71 soldats tchadiens ont péri dans les affrontements.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'est engagé à prendre à bras-le-corps les graves problèmes du pays dans son discours. Après son investiture à la tête de l'État ce matin, il a également promis de servir contre ce qu'il a appelé les fous de Boko Haram. Les Nigérians ne vont pas regretter de nous avoir confié les responsabilités de l'État, a souligné le président Buhari. Ce dernier a assumé le pouvoir dans un pays ébranlé par la crise économique et les attaques du groupe islamiste Boko Haram, les défis qui l'attendent avec Claire Morin-Gébourg.
Le parti de Muhammadu Buhari, l'APC, dit qu'il hérite d'un pays sinistré, doté d'une économie pratiquement à terre à cause de la chute des cours du pétrole. En plus de la corruption qui gangrène le pays, M. Buhari va devoir résoudre les problèmes d'énergie chez le plus gros producteur de pétrole du continent, mais qui est privé d'électricité parfois des semaines d'affilée. La question sécuritaire sera un des dossiers brûlants qui attendent le nouveau président, avec l'insurrection du groupe Boko Haram, qui a fait plus de 15 000 morts depuis 2009.
Vous êtes bien branchés sur VOA Afrique. Merci d'être avec nous, Jacques Aristide au micro. Je vous retrouve dans quelques petites secondes.
Aujourd'hui dans Sahel Plus, reportage au Mali, rencontre avec des migrants survivants qui ont tenté au péril de leur vie de traverser la Méditerranée.
Le départ était bon, mais on a eu un problème, le bateau a cassé. Mais alhamdoulilah, on a eu les pêcheurs qui nous ont sauvés.
Sahel Plus, c'est aujourd'hui à 18h10, temps universel.
La suite de ce journal avec l'actualité africaine encore. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila commence aujourd'hui des consultations politiques tous azimuts pour un dialogue aux contours encore flous. Une partie de l'opposition refuse d'y participer en qualifiant l'initiative de manœuvre du chef de l'État à qui la Constitution interdit de se représenter pour retarder l'échéance de la présidentielle de novembre 2016. Anne Albertson.
M. Kabila doit recevoir d'abord les chefs des confessions religieuses, puis les chefs coutumiers, avant de discuter avec ceux des partis politiques de l'opposition, puis de la majorité, des groupes parlementaires et regroupements politiques, pour finir avec les diplomates accrédités en RDC et le chef de la mission de l'ONU au Congo, a-t-on précisé de même source. La Commission électorale nationale indépendante a publié en février un calendrier électoral global prévoyant une série d'élections locales, provinciales, sénatoriales, devant commencer en octobre et mener jusqu'à la présidentielle et aux législatives programmées pour novembre 2016. Les trois grands partis de l'opposition estiment en substance que ce calendrier fait peser une grande incertitude sur la tenue de la prochaine présidentielle dans les délais prévus par la Constitution. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001.
Et au Congo-Brazzaville voisin, une grande partie de l'opposition fait la sourde oreille à l'appel au dialogue lancé il y a plusieurs semaines par le président Denis Sassou Nguesso. Des consultations préconisées lors d'une conférence de presse où le chef de l'État avait souligné la nécessité de ce dialogue inclusif au sujet d'une possible modification de la Constitution nationale. Le SACER, le service d'action civique et de résistance qui regroupe des opposants congolais à Paris, est résolument contre cette initiative. On écoute son président John Binitzaba.
Tout ce qu'il veut, c'est rester éternellement au pouvoir et endeuiller les Congolais, enfamer les Congolais. Donc l'opposition dans l'ensemble a dit non, non au dialogue avec M. Sassou.
Si vous refusez le dialogue, qu'est-ce que vous proposez ?
Pour nous, M. Sassou doit partir. Il est à la fin de son mandat en 2016, il va partir. Rien ne permet aujourd'hui qu'il se représente. Il est frappé par la limite d'âge. Il est frappé par la limite de mandat.
Et peut-être que vous pouviez aussi le faire par le dialogue, non ?
Mais non, mais ce n'est pas possible. Il y a eu plusieurs dialogues. Tout est toujours biaisé par M. Sassou. Il y a eu beaucoup de dialogues au Congo.
Et si vous rejetez cette main tendue, est-ce que vous n'avez pas peur d'être accusé d'être radicaux ?
Mais non, monsieur. On ne peut pas être accusé de radicaux. Si M. Sassou veut vraiment un dialogue, ce n'est pas de cette manière-là qu'il veut le faire. Il envoie un courrier par son directeur de cabinet. Une convocation comme ça, en une nuit, pour dire que le lendemain, il y a concertation. Mais pour qui ça surprend les Congolais ? Et s'il parle de concertation, pourquoi il ne peut pas mettre un médiateur ? Pourquoi tout doit se faire autour de lui ?
Vous préférez un médiateur que le gouvernement de Brazzaville ?
Ben, écoutez, c'est préférable, parce que nous n'avons pas confiance à M. Sassou.
John Binitzaba, président du SACER, des propos recueillis par Bagassi Koura. Le scandale qui secoue la FIFA est bien offensif face à l'énorme pression internationale. Joseph Blatter, le patron de cette instance, a appelé ce vendredi les membres de la FIFA à serrer les rangs pour aller de l'avant. C'était peu avant le scrutin où il brigue un cinquième mandat à la tête de l'instance secouée par des allégations de corruption, vous le savez. Blatter, 79 ans, attaqué de toutes parts et notamment par le président de l'UEFA, Michel Platini, qui lui a personnellement demandé hier de démissionner. A pour adversaire le prince jordanien Ali bin al-Hussein, 39 ans, un de ses vice-présidents qui se présente comme l'homme du changement. Les gouvernements ne font pas suffisamment d'efforts pour empêcher leurs ressortissants de partir rejoindre les djihadistes du groupe État islamique en Syrie et en Irak. A regretté l'ambassadrice américaine à l'ONU ce vendredi avant une réunion du Conseil de sécurité. C'est ce que rapporte l'AFP aujourd'hui. Le Conseil se réunissait avec les ministres de l'Intérieur de ses 15 membres pour se pencher sur ce sujet pour la première fois depuis la diffusion d'une étude de l'ONU montrant un accroissement du nombre de combattants djihadistes étrangers. Les États-Unis ont retiré Cuba ce vendredi d'une liste noire d'États soutenant le terrorisme dans le cadre du rapprochement historique entre les deux pays après plus d'un demi-siècle de brouille. Cette décision annoncée par le département d'État était attendue depuis que le président Barack Obama s'y était dit favorable à la mi-avril et que la Havane en avait fait une condition préalable au rétablissement de ses relations diplomatiques avec Washington. La situation dans l'est de l'Ukraine est devenue ces derniers jours plus fragile, a déclaré ce vendredi à Kiev le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, appelant à recourir à tous les moyens pour éviter une nouvelle détérioration de la situation. Et puis, très rapidement, une petite nouvelle économique. L'Afrique vulnérable au ralentissement de l'économie chinoise. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude de l'agence de notation Standard & Poor's, ou S&P. SNP en un mot. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Je vous retrouve dans exactement 50 minutes. Bonne écoute sur VO Afrique. À tout à l'heure. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.